Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du FaberCast. Je suis votre animateur FaberGlass et aujourd'hui on a un épisode spécial sous les mains car on vient tout juste de dire au revoir à l'année 2018 et puis c'est l'heure de faire notre rétrospective de l'année, notre revue de l'année. Vous savez comment je fais ça moi. Je fais ça sous forme de liste et de classement. Quelle surprise, tu sais. Le gars, c'est ça qu'il fait dans la vie. Il classe des patentes, il liste des patentes et puis je pense que c'est une bonne manière de faire ça parce qu'aujourd'hui je décerne officiellement les récompenses de fin d'année de MMA Talk dans le monde du MMA canadien. Donc tout ce qui s'est passé au Canada est éligible pour cette liste-là. Donc principalement les promotions de TKO, on a Battlefield Fight League, Unified, Excessive Force, on a Z Promotion, là, tout ce qui est Fight Night en Alberta, on a of course BTC en Ontario, Elite One, toutes ces ligues-là sont considérées. Et tous les combats qui se sont passés dans ces ligues-là sont considérés dans les différentes catégories qui sont les suivantes. Combat de l'année au Canada. Meilleur combat de l'année au Canada. On a pire combat de l'année au Canada. On a le KO de l'année, la soumission de l'année, la surprise de l'année, upset of the year en anglais qu'on dit, le résultat inattendu, qu'on s'attendait pas à ce que ça arrivait. On a bien sûr le combattant de l'année, la carte de l'année, et puis le meilleur team, la meilleure équipe, le meilleur gym de l'année pour cette catégorie-là. Je me suis fait sur les fiches TKO, je le sais, j'ai pas les fiches des autres gyms dans les autres promotions, donc ça n'empêche que je pense qu'on a eu un très bon échantillon quand même avec ça. Donc les meilleurs gyms de l'année et puis la recrue de l'année finalement. Donc ce sont les catégories que je vous offre. J'ai eu la chance d'avoir des petits mots d'acceptation de prix ou de remerciement de la part de certains des gagnants. Donc je vous glisse ça dans les listes. On va commencer à l'instant même et puis bonne écoute tout le monde. Voici les récompense de l'année de MMA Talk. On est prêt à commencer ces fameuses listes-là. Allons-y donc avec la première et je commence aujourd'hui avec le combat de l'année 2018 en sol MMA canadien. J'exclus cependant les combats de l'UFC parce que je veux vraiment donner l'emphase, donner l'honneur de ce combat-là à des combattants qui sont actifs sur la scène MMA canadienne, pas juste des gars qui se sont battus une fois au Canada parce que l'UFC a atterri là. C'est sûr que si j'avais inclus les combats UFC, on aurait probablement Max Holloway contre Brian Ortega au numéro 1, mais c'est direct ça que je ne voulais pas faire. Voici donc le top 10 des meilleurs combats de l'année 2018 en sol canadien. D'y aller avec le top 10, j'ai 5 mentions honorables pour vous. La première d'entre elles, Taylor Lapillus contre Josh Hill au TKO 45. Charles Jourdain contre Matarlo au TKO 42. Marius Ksaskevich contre Joe Valley au TKO Fight Night 1. Jade Masson-Wong contre Maggie Poulain au TKO 43. Finalement, Alex O'Neill contre Nicolas Penno au TKO Fight Night 1. Au numéro 10 de ma liste, j'ai un combat de championnat qui a eu lieu au TKO 42, Malcolm Gordon contre Jordan Graham. Ça a été un combat où ça n'a pas perdu de temps avant de se mettre à grapple et Malcolm Gordon, quand il se retrouve sur son dos, est absolument ridicule. Il lance soumission après soumission. Il a essayé tous les genres de clés de bras et de kimura qui ont essayé, qui ne peuvent pas exister sur la terre. Ça n'a pas marché sur Graham. Il a fini par locker un triangle puis aller chercher cette kimura-là pareil, mais ça a été absolument exceptionnel pour le temps que ça a duré. C'est pourquoi je l'ai au numéro 10, ça a pas été un combat très très long, mais pour le temps que ça a duré, ça a été action-packed. Numéro 9, Jade Masson-Wong contre Corinne Laframboise au TKO 44. Super beau combat back and forth où Jade a eu du succès debout, Corinne a réussi à avoir du succès au sol, a mis Jade dans des mauvaises positions au sol, Jade s'en est bien sortie. Jade a mis Corinne dans des mauvaises postures debout, Corinne s'en est bien sortie. Ça a été compétitif du début à la fin. C'est même pas tout le monde qui s'entend sur le résultat de ce combat-là, bien que Jade est sortie vainqueur de ce combat-là avec une décision unanime. Ça a été un très bon combat, ça nous donne envie de voir un rematch, bien qu'on va sûrement avoir à patienter encore un peu pour ça, mais j'ai aucun doute qu'on va avoir la chance de voir ça. Si c'est pas fin 2019, ça va être au moins au début de l'année 2020, mais je suis confiant qu'on peut voir ce combat-là en 2019, Jade contre Corinne 2. Donc j'ai leur premier avortement au 9e rang de la liste des meilleurs combats de l'année au Canada. Au 8e rang, Maxime Soucy contre Olivier Nadeau au TKO 43. Un autre exemple d'un combat qui n'a pas été très long, mais Dieu que ça a été idiot pour le temps que ça a duré. Les deux se sont lancés des grosses mains. Ça a été très, très solide. Ça s'est frappé fort des deux côtés. On a vu Nadeau très agressif qui a mis Soucy peut-être un peu en eau chaude ou en eau tiède en début de combat. Et puis on a vu Soucy s'adapter, réussir à le timer, lander des bons coups. Ça s'est mis à grapple un moment donné. Ça a été tout autant violent au sol. Soucy, a lock-in, naked choke, pas totalement du rear, mais bon, genre de choke qu'on voit pas souvent. Il a réussi à finir Olivier Nadeau avec ça au premier round, mais ça a été un round absolument débile. Si j'avais eu à faire une catégorie des meilleurs rounds de l'année, ça aurait probablement été un de mes candidats pour le premier rang. Donc j'ai ça au 8e rang des meilleurs combats de l'année, Soucy contre Nadeau. Au 7e rang, Danny Mallett, Sean Mead au TKO 43. Quelle manière de commencer une carrière pro pour Danny Mallett et Sean Mead, de se retrouver dans une guerre de combat debout comme ça, qui a été une guerre de tranchées. Les deux se sont kickés très fort, se sont frappés très fort. Il y a eu de l'action pendant 15 minutes sans arrêt. Ça n'a pas été, tu sais, un brawl vraiment. Ça a été un très beau combat de stand-up, très technique, mais de très belles choses qui ont été vues d'un côté comme de l'autre. Danny Mallett en est sorti gagnant par décision partagée dans une très belle performance. Et puis, ça n'a pas le choix d'être sur la liste, ça. C'est le 7e meilleur combat de l'année au Canada, selon moi. Au numéro 6, on a Alex Bowley contre Mathieu Langlais au TKO 45. Écoutez, deux jours de préavis pour Alex Bowley. Se demandait, est-ce que je dois prendre ce combat-là? Il est en shape, il est toujours dans le gym. Il a décidé de le prendre parce qu'il savait que contre Mathieu Langlais, il n'y avait aucune chance que ça déçoive. Puis c'est vrai de ça que ça n'a pas fait. Les deux se sont swingés les plus grosses mains possibles par la tête. Et puis, ils ont encaissé, les gars ont encaissé jusqu'au début, bord oblique, milieu du troisième round, je ne me rappelle plus du temps exact, mais Alex Bowley a réussi à finalement faire tomber Mathieu Langlais. Il l'a fini avec du très bon ground and pound dans ce qui a été jusqu'à ce moment-là de loin le meilleur combat sur cette carte-là. Donc, 6e rang des meilleurs combats de l'année, Bowley-Langlais. Au 5e rang, Louis Jourdain contre Sébastien Ruiz au TKO 44. La seule affaire qui a peut-être joué contre ce combat-là, c'est que c'était absolument génial, mais on le savait que ça allait l'être. Puis ça n'a pas excédé nos attentes. Ça a 100% rempli nos attentes, mais nos attentes étaient déjà excessivement élevées envers ce combat-là. C'est pourquoi je dois mettre Arnett contre Ruiz plus haut sur cette liste-là, parce que ça a été une surprise. Ça, on savait pas que ça allait arriver, que ça allait être un combat excitant comme ça. Et l'effet de surprise donne souvent pour les meilleurs moments dans la cage. Tout de même, ça a été un excellent combat. Peut-être un peu comme Mead et Mallett, un combat de stand-up plus technique qu'une guerre, mais ça a été absolument génial. Louis Jourdain a sorti un stand-up absolument génial dans ce combat-là, d'aller gagner cette victoire-là contre un combattant à moins taille de haut niveau comme Sébastien Ruiz. C'est quelque chose pour Louis. Et puis, c'est pourquoi je l'ai si sur cette liste-là au 5e rang des meilleurs combats de l'année. Au 4e rang, Malcolm Gordon est de retour sur la liste contre James Mancini au TKO Fight Nighter. Un combat qu'on ne parle pas assez selon moi, mais ça a été de loin un de mes combats préférés. On a vu James Mancini sortir très fort, imposer sa lutte, take down Malcolm Gordon, passer du bon temps sur le top. Of course, Gordon est un complet fou en dessous, essayer des soumissions, essayer plein de choses, mais Mancini s'en sortait très bien, heureux à prendre des belles positions, heureux à prendre son dos et tout dans ce combat-là, mais les attaques de Gordon ont juste été trop pour James, qui malheureusement s'est retrouvé dans une clé de bras qui était très sharp, très rapide, puis il n'a pas eu le temps de s'en sortir. Il a toffé cette clé de bras-là vraiment trop longtemps pour le bien de son coude. C'est un gars avec beaucoup de cœur. James ne voulait pas abandonner, ne voulait pas encore une fois perdre par soumission, surtout qu'il faisait tellement du bon travail pour ne pas se faire prendre dans une soumission contre un excellent grappler. Finalement, Gordon a eu le dessus, mais ça a été un combat pour les grappling fans comme moi, absolument génial, de loin un de mes meilleurs de l'année, et c'est pourquoi je l'ai mis au 4e rang de cette liste-là. Au 3e rang maintenant, J'en ai parlé brièvement avant, mais c'est Jesse Arnett contre Sébastien Ruiz au TKO 43. Le fait que Ruiz arrive sur très court préavis, personne ne sait c'est qui. Il a genre 19 ans, il a l'air minuscule, puis on sait quel monstre est Jesse Arnett. On se dit, oh mon Dieu, il va le tuer, ça sera pas beau ça dans la cage. Puis quand on est arrivé dans la cage, on a vu Ruiz super confiant, qui tentait Jesse Arnett, qui faisait des moves, tu sais, comme si, des moves, vous dire, ah non, ça m'a rien fait, tu sais, ton coup, je suis pas affecté par ça. Puis tu sais, il parlait, il répondait à Jesse Arnett, il faisait de l'attitude en retour, puis ça a donné tout un moment. Il a réussi à dropper le champion à plusieurs reprises. Arnett l'a pris dans toutes sortes de darkstroke, d'anaconda, de guillotine, avant de finalement lui passer une très belle guillotine pour finir le combat, mais ça a été beaucoup plus difficile qu'anticipé pour Jesse Arnett. Et puis, c'est un moment d'MMA qui est un des moments forts de l'année au Canada. On s'en doit, on va s'en rappeler pour un bon moment, et c'est pourquoi j'ai ça au troisième rang des combats de l'année. Au deuxième rang maintenant, Charles Jourdain, Kevin Généreux au TKO Fight Night 1. Ça a été un combat absolument exceptionnel. Ça n'a pas été long. Dès le début du combat, ça s'est méchangé debout. Jourdain a tagué Généreux. S'est retrouvé au sol. Ça a échangé. Généreux a réussi à prendre le top. S'est retrouvé dans un triangle. A passé comme une minute et demie dans un triangle. Il a lancé du très gros ground and pound quand même sur Jourdain qui avait pas le choix de pas ignorer ce ground and pound-là. Donc, pouvait pas mettre toutes ses énergies sur son triangle, même s'il gardait le triangle. Finalement, Généreux en est sorti. Il y a des gens qui donnaient même ce premier round-là, bien que je suis pas d'accord avec ça, mais bref, premier round absolument débile, le deuxième round commence en même affaire. Et puis, ce qui a été le haut désavantage de Généreux dans ce combat-là, c'est que ça s'est retrouvé dans des situations de grappling à plusieurs moments, parce que Jourdain avait du succès debout, et puis Kevin Généreux n'était juste pas un aussi bon grappler que Charles Jourdain, qui a fini ça avec un rear naked choke après l'avoir kické d'un côte assez solide quand Généreux était dans la tortue. C'était une scène assez spectaculaire, un combat assez spectaculaire, comme 6 minutes et demie, 7 minutes de pur délire, et puis ça aurait très bien pu être le combat de l'année si mon numéro 1 n'était pas arrivé, mais au numéro 1, c'est mon choix. C'était aussi le choix du public, le choix de tous ceux qui ont voté. En très grand nombre, d'ailleurs, sur mon groupe, ça a été une très bonne avance pour ce combat-là, en tête de la liste des combats de l'année. Et je parle de Jesse Ronson contre Michael Dufort au TKO 44. Donc, la guerre de 5 rounds de l'année, ça a été... C'est sûr que ces combats-là sont favorisés par rapport à des combats de 3 rounds, des combats qui ont des finishes, tu sais, au deuxième ou troisième round. Quand tu as la chance de voir un combat play out et être excitant et enlevant pendant les 25 minutes complètes, c'est toujours un privilège. Ça donne toujours un très gros boost à ce combat-là. Puis c'est ça que ça a été. On a vu Jesse Ronson être le Jesse Ronson qu'on connaît. On a vu Michael Dufort être un combattant tout autre que celui qu'on connaissait et avoir du succès en se battant d'une façon que tout le monde disait que s'il se battait comme ça, il allait littéralement se faire tuer. Puis on s'est rendu compte que Dufort, la seule affaire qui allait arriver quand tu le frappais fort, c'est que ça allait le mettre en torieux puis il allait juste avancer encore plus fort vers toi en lançant encore plus des grosses mains qu'il les lançait déjà. Et puis, c'est un atout exceptionnel à avoir, cette toughness-là, pour quelqu'un qui a le talent que Michael Dufort a. Donc autant une superbe victoire pour Jesse Ronson qu'une breakout performance pour Michael Dufort qui s'est pointé là littéralement contre un des meilleurs au monde dans sa division qui, on s'entend, c'est 155 livres pour les deux, même si le combat a eu lieu à 170, mais bref, on le sait que Dufort veut retourner à ce poids-là et puis il est arrivé et réussi à être très compétitif sur 5 rounds et a passé tout près d'enlever une split decision à un des meilleurs au monde à ce point-là. Donc, avec l'expérience qu'il a, qui est seulement de 9 combats pro, Michael Dufort a démontré qu'il avait déjà ce qu'il fallait probablement pour se retrouver à ce niveau-là éventuellement. Donc, super combat, de loin le combat de l'année, comme je l'ai dit, mon choix et le choix du public, c'est Jesse Ronson contre Michael Dufort. Donc, on a un bout de Dufort ici, écoutons-le.
Salut tout le monde, j'ai été avisé par MMA Talk que j'avais gagné le combat de l'année de chez TKO. Je voulais remercier tout le monde qui a participé, c'est super gratifiant de savoir que l'entraînement porte fruit puis que vous aimez ce que vous voyez quand je me bats. Mon combat contre Ronson a été très difficile, mais Je pense que j'ai démontré beaucoup de caractère, puis j'ai montré à la planète MMA que je faisais partie de l'élite du sport. Puis je voulais remercier tout le monde qui ont voté en grand nombre, mes supporters qui me suivent depuis tellement longtemps, mes commanditaires, c'est énorme ce que vous faites pour moi. Vous m'aidez tellement à pouvoir justement m'entraîner dur sans avoir de la difficulté avec tout ce qui est autre que de la vie des arts martiaux mixtes. Je me considère tellement chanceux, j'ai une belle famille qui m'aime, j'ai une famille qui me supporte énormément, des amis qui me supportent partout où je me bats, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal, tout le monde me suit. Puis, encore là, je voulais dire merci, c'est super apprécié. Je sais que TKO a une super belle année en plus, donc c'est encore plus gratifiant de savoir que malgré la belle année que TKO a eue, j'ai été nommé combat de l'année avec Jesse. Je voulais vous souhaiter bonne année à tout le monde, à toutes les fans d'arts martiaux mixtes, toutes les fans de TKO. Merci beaucoup. Sans vous, on se bat devant personne, puis le spectacle est pas apprécié, donc c'est super, c'est super. Merci beaucoup.
Allons-y maintenant avec le pire combat de l'année. Ce qui est le fun dans cette catégorie-là, c'est que j'ai juste pu faire un top 5 avec deux mentions honorables. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de mauvais combats cette année. Et même les combats là-dedans, je les ai mis sur la liste. Il y a des gens qui ont voté. Il y en a que moi, je n'ai pas trouvé particulièrement mauvais. Je me suis fié au vote beaucoup pour dresser ce classement-là. C'est sûr que mon top 3 était assez clair, mais les autres. C'était un peu, tu sais, peu importe où ça se retrouvait, mais bref. Les deux mentions honorables étant Sylvia Juszkiewicz contre Alicia Krohn au TKO 43, ainsi que Nate Maniz contre Kai Machado au TKO 42. Au numéro 5, Julien Leblanc contre Damien Lapillus au TKO 44. Et je pense que Julien serait le premier à vous le dire à quel point ça a été un combat de merde pour lui aussi. Écoutez, il a voulu faire le saut à 170. Ça, comme dès la veille, on le savait que c'était peut-être pas une bonne idée, le gars. Il était déjà au poids rocher, avait de la misère à rester debout littéralement là, dans sa chambre d'hôtel en attendant d'aller se coucher. Donc, on se dit, ah, tabarnouche, c'est pas beau. On espère qu'il va faire la pesée au plus vite, va réussir à reprendre des forces pour le combat. Finalement, il n'y avait rien dans ce combat-là. Julien était absolument rien capable de faire. Et puis, tu sais. C'est pas une excuse, c'est un essai. Il pensait qu'il était fait pour faire 170 livres. C'est pas pour lui, malheureusement, va être de retour à 155. Mais ça a donné une performance absolument flat de sa part où Damien Lapillus s'est rendu compte qu'il y avait juste à le takedown puis à s'étendre sur lui puis aller gagner le combat. Damien, qui est un 145 livres, qui se bat à 155 livres aussi assez fréquemment, je vous dirais, mais que c'est très rare, voire du jamais vu, qui se retrouve à 170 livres. Donc, lui, le fait d'avoir l'avantage dans le combat, il n'a pas voulu prendre plus de chances qu'il faut parce qu'il se retrouvait quand même contre un adversaire beaucoup plus grand que lui et quelqu'un qui pouvait être dangereux, même. Puis, tu sais, en plus, Lapillus ne savait pas dans quel état Leblanc était devant lui, ne savait pas à quel point Julien n'était pas vraiment lui-même dans ce combat-là. Donc, ça a donné un combat où Julien ne pouvait rien faire et Lapillus, vu qu'il était le plus petit des deux combattants, en a fait juste assez pour gagner. Ça n'avait pas été le meilleur spectacle pour personne. Donc, cinquième rang des pires combats de l'année 2018 en sol canadien. Quatrième rang, Ergis Sigeta contre Saif Eddine Wergi. C'est peut-être celui que je suis le moins d'accord. Moi, j'adore ce que je vois de Sigeta. Il y a des gens qui ont voté, par exemple, donc j'ai pas le choix d'écouter le choix du public. Je peux comprendre que c'est peut-être pas le meilleur spectacle quand Sigeta passe un round et demi en full mount et a lancé du ground and pound et puis il est pas capable de finir. Saif Eddine qui a été super tough dans ce combat-là, mais qui a mangé beaucoup trop de coups de poing. En tout cas, c'est ça. Ça a été un whipping, ça n'a pas été compétitif. On peut pas dire qu'on a vu un bon combat d'MMA vraiment dans ce combat-là. Moi, pour ma part, comme je l'ai dit, j'adore ce que je vois de Sigeta. C'est sûr que c'est pas le gars qui a beaucoup de puissance. C'est pas le gars qui va one punch KO vraiment à personne, mais il est excellent au sol. Put in the work, il a une très bonne pace. Moi, j'aime ce que je vois de lui, mais les gens ont voté, puis j'ai pas le choix d'écouter le choix du peuple. Donc, quatrième rang des moins bons combats de l'année. Au troisième rang, maintenant, top 3. Comme je vous ai dit, c'est assez clair pour moi, le top 3. J'ai laissé les gens voter. Ça a pas mal été en cette voie-là. Et au numéro 3, Walter Howard Jr. contre Bakary Sako au TKO Fight Night 1. Et puis, le combat en tant que tel, ça n'a pas été mauvais. Là. Ça a duré un round. Bakary a eu son way à âprement dominer Walter Howard Jr. Mais pourquoi que ça se retrouve là? C'est pour ce qui est arrivé après. Bakary est arrivé dans son coin. Puis Dieu sait ce qui est arrivé, mais il s'est mis à se tenir comme la côte. Et puis, c'est lancé en bas de son stool. Puis, il ne voulait pas retourner dans le combat pour une raison qui nous est inconnue. De l'info qu'on a eue, plusieurs gens pensent que Bakary n'a pas vraiment été blessé, mais on n'a pas eu la chance de l'entendre de la bouche de Bakary. Donc moi, je suis encore intrigué à savoir ce qui est arrivé dans ce combat-là, mais la scène était assez particulière et puis ça faisait shit show un peu. Donc malheureusement, on n'a pas le choix de mettre ça dans la liste des pires combats de l'année, même si moi, j'ai été, je vous dirais, relativement amusé par la situation. T'sais, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Je me questionnais, je me rappelle, moi et Ken Wong, on était assis un côté de l'autre pour se demander qu'est-ce qui est arrivé, comment il s'est blessé, qu'est-ce qui vient d'avoir lieu. Puis on en avait littéralement aucune idée, puis on en a encore aucune idée à ce jour. Puis c'est ça qui fait que c'est drôle. Donc, troisième rang, Walter Howard Jr. contre Bakary. Deuxième rang, ça a été le top vote, ça a été le combat le plus voté de la part des gens qui ont voté. Puis je comprends pourquoi, parce que mon numéro 1 n'a pas été sur une carte télévisée, donc les gens n'ont pas vu ce combat-là en majorité, donc ne savent pas à quoi ils avaient vraiment affaire. Donc ils ont voté pour l'autre, je me réserve quand même mon droit de veto ici, puis je mets le choix du peuple au numéro 2. Jonathan Meunier contre Menad Abella au TKO 43, un combat qui a vraiment déçu, parce que ça a toujours resté un simmer, ça a toujours resté un distance fight où les deux se sont beaucoup regardés et ont très peu lancé de strikes. C'est malheureux pour les débuts de Joe Meunier qui était très attendu. Puis je pense que c'est pour ça que ce combat-là était le choix du peuple, parce que non seulement c'est un combat très attendu sur la carte et qu'il y a beaucoup de gens qui allaient là pour voir ce combat-là, puis finalement c'est un combat qui a déçu par rapport aux attentes qu'il y avait. Et puis c'est ça, c'est pourquoi ça se retrouve au deuxième rang, c'est pourquoi ça a été le choix du peuple. Mais écoutez, on n'a pas le choix. Le pire combat de l'année 2018 au Canada. Et chaque personne qui a été là et qui a vu ce combat-là va probablement dire la même chose que moi. C'est Tariq Smaël contre Manny Alfaro au TKO Fight Night 1. Lors de tourner en rond puis de se regarder pendant 15 minutes, on avait Manny Alfaro qui voulait pas vraiment avancer puis engager contre un striker de la trempe de Tariq Smaël, qui stockait son adversaire sans jamais rien faire, sans jamais rien lancer. Ça a été un staring contest de proportion assez épique. De loin, le pire combat. Dès qu'il y a eu des échanges de grappling, ça s'est retrouvé dans la cage, puis c'est devenu un stalemate là, complet, dans des positions bizarres où il y a des coups de ses fesses qui se donnaient d'un côté comme de l'autre. Donc, mauvais combat, écoutez, très mauvais combat. J'ai rien contre les deux artisans de ce combat-là. Tariq Smaël a même un combat que j'ai considéré dans ma liste des meilleurs combats de l'année. Son combat contre Johnny Baldridge au TKO 42, ça a été bien meilleur, là, on s'entend. On aurait aimé mieux voir plus d'instincts du soir de la part d'Ismaël, mais le combat contre Baldridge était excellent. Cependant, celui contre Alfaro a été assez... C'est ça. Moyen, mettons. Fait que... numéro 1, bravo les boys. J'ai pas de mots du vainqueur, là. Je voulais pas vraiment écœurer le vainqueur. « Hey, salut, t'as gagné le pire combat de l'année. Veux-tu me faire un petit vidéo de remerciement? » Donc, nous n'allons pas écoutez Tariq Smaël et Manny Alfaro nous parler de ça. Next category. Passons à des choses bien plus intéressantes maintenant. KO de l'année en sol canadien. J'ai 5 mentions honorables et 10 membres du top 10. Donc allons-y avec les mentions honorables. Marc-André Barriot contre Adam Hunter, le full mount ground and pound avec les coups de coude puis tout. Il a éteint une lumière assez clean, très beau KO. Ensuite, Johan Lennes contre Sean Meade, Shape of Marc-André Barriot, on s'entend. Good job pour Johan, très beau combat, très impressionnant. On a Nate Maness contre Jesse Arnett, le counter left-hand qui était très beau, ce qui fait que je le mets pas dans le top 10. C'est que c'est un early stoppage un peu, malheureusement, donc ça l'enlève un peu de pep, mais bref. Simon Lagarde contre Cole Fetzner, aucune bonne intention dans ce ground and pound-là, c'était complètement brutal. Et... finalement, Alex Bowley contre Mathieu Langlais. Passons au top 10. Au numéro 10, j'ai Marc-André Barriot contre Brandon Kornberger. Je sais pas pourquoi les gens qui ont voté semblaient aimer mieux le knockout contre Hunter. Mais moi, j'aime mieux celui contre Kornberger. Non seulement il a fermé les lumières clean avec son ground and pound, mais il a commencé à job debout. Fait que je vais toujours aimer mieux un knockout que le gars se fait dropper debout puis finir violemment au sol avec du ground and pound que quand il se fait juste finir violemment au sol avec du ground and pound. C'était deux très beaux KO, mais celui que je décide d'inclure sur la liste, c'est celui contre Brandon Kornberger. Donc, numéro 10 pour Marc-André Barriot. Au numéro 9, Jared Revel contre TJ Kohler au BFL 55. Un over and right de proportion assez gigantesque. Vous voyez le vidéo en ce moment. Je pense que c'est indéniable. Un des très beaux KO de l'année. Pas le choix de mettre ça là. Au numéro 8, Alex Morgan contre TJ Laramie, le coup de genou et puis la série de main droite. Avec de très mauvaises intentions, vous checkerez le vidéo, la face à Alex. Là, tu le vois qu'il lance ses mains droites dans l'intention d'y faire mal à ce petit Laramie-là. Il y avait du bad blood entre les deux. Morgan a réglé ça de façon assez spectaculaire et c'est un très beau KO, 7e rang cette année. Selon moi, Adam Asenza et Sean Wallace dans le combat principal du BTC3. Asenza a réglé ça avant même que ça commence avec un super beau crochet pour dropper Sean Wallace et mettre fin au combat. Un très beau KO pour moi, d'après moi, le plus beau KO qui a eu lieu à l'extérieur de TKO cette année au Canada. Et j'ai ça au 7e rang. Au 6e rang maintenant, le KO le plus sous-estimé de l'année 2018 en sol canadien, selon moi. Je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas et ne le mettent pas sur leur liste des plus beaux KO de l'année. Mais c'est le body shot de Danny Mallette sur Guillaume Poulin au TKO 44. Écoute, Danny Mallette a envoyé pas mal tout ce qu'il pouvait envoyer par la tête à Guillaume Poulin. Il a droppé une couple de fois, mais il voulait pas. Il s'en relevait, puis il a montré un cœur absolument incroyable dans ce combat-là. Ça a été le coup au corps qui, finalement, a porté le coup final, le coup qui a plié Guillaume Poulin, qui a fait qu'il n'a pas pu se relever de ça. C'est une shot excessivement bien placée et, selon moi, vraiment un très, très beau KO qui aurait dû être plus mentionné dans ces listes de fin d'année-là des gens. Donc, un KO qui a manqué de vote aussi, là, beaucoup sur... mon pause, donc je call out le monde pour ça. C'est un des plus beaux KO de l'année. Vous avez le vidéo sous vos yeux, vous pouvez le voir de vous-même, je l'ai. Au 6e rang. 5e rang maintenant, Cédric Bonbon-Mongeon sur Alex Murat. C'est le coup de pied à la tête, mais le coup de pied à la tête qui a été lead par les leg kicks, plusieurs gros leg kicks, puis on voit clairement qu'Alex Murat, quand il recule, il y a quelque chose à sa jambe, puis il reçoit un autre coup, ça fait qu'il penche, puis il penche direct dans l'head kick, puis c'est l'head kick qui finit ça, mais le setup avec les leg kicks, super beau, la façon dont Cédric Bonbon-Mongeon est arrivé à 0.5 secondes de préavis, il a pris ce combat-là, puis il est allé gagner ça. Génial, c'est une très belle performance couronnée par un très beau knockout, le 5e plus beau de l'année. Au numéro 4, c'est mon choix personnel, mais j'ai pas le choix d'écouter le choix du public un peu, donc Bobby Sullivan contre Blake Nash, l'uppercut au TKO 42. Et puis c'est autant génial parce qu'il l'avait calé, il l'a carrément calé qu'il allait faire ça. Puis il nous l'a dit la veille dans la chambre d'hôtel quand moi et Adam on jasait avec lui. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Le super bel uppercut suivi du flying Bobby Punch sur Blake Nash. Un des très beaux KO de l'année, un des KO clean de l'année. Et puis, ça n'a pas le choix. Moi, je vous l'ai dit, c'était mon choix. Il y a d'autres knockouts qui ont été plus votés que celui-là, cependant. Donc, j'ai pas le choix d'écouter le public pour cette catégorie-là parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de votes. Je mets mon choix au numéro 4, Sullivan contre Nash, le super bel uppercut. Au numéro 3, Charles Jourdain. Contre Matarlo, la main droite et puis les punches qui ont suivi par après, c'était pas mal un knockout en combinaison comme Charles nous l'a montré plusieurs fois et puis C'est un de ses beaux, pas mal son plus beau si on regarde ses knockouts vraiment, parce qu'on s'entend que là, on va revenir sur le combat contre Alex Morgan là, dans d'autres catégories. Ne vous en faites pas avec ça. Mais en termes de knockout qu'il a obtenu, je pense que c'est son plus beau. Je pense qu'on fait très bien de le mettre si haut sur cette liste-là. Charles Jourdain contre Matar Lowe. Au deuxième rang, finalement, de loin, mon knockout le moins préféré de l'année, mais on n'a pas le choix de lui donner son dû, c'était absolument brutal. Johnny Baldridge sur Frédéric Dupras. Écoutez, vous voyez le vidéo en ce moment, c'est un KO qui a eu lieu lors du TKO Fight Night 1, donc c'est pas tout le monde qui a eu la chance de voir ça. Ça a été scary sur le moment, ça a fait taire la salle assez rapidement. Il n'y a plus un bruit qui se faisait jusqu'à temps que Frédéric justement s'est réveillé, ce qui a quand même duré un peu trop longtemps pour que ça soit le fun, pas des minutes, mais au moins une très bonne minute et même voire plus. Donc scary knockout, super beau timing de Johnny Baldridge, faut lui donner son dû. Le gars a sorti probablement le plus beau KO de sa carrière lors de ce combat là donc numéro 2 de l'année, Johnny Baldridge contre Frédéric Dupras, ce qui nous mène au numéro 1, le vote du public, qui est la main droite d'Adam Daichka sur Icho Larenas au TKO 43. Main droite qui a tellement rentré qu'on a vu le corps d'Icho Larenas lâcher, même s'il voulait pas tomber, parce que Icho Larenas, on s'entend, il voulait pas tomber, mais son corps a décidé qu'il allait tomber. Il y a comme quelques spasmes en tombant. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Merci de voir quelqu'un littéralement figé debout comme ça, puis tomber comme une roche par terre. Surtout quelqu'un qui s'était dit inoccupable avant le combat, puis qui avait pas mal la réputation de l'être. Il avait perdu par TKO, il avait perdu par soumission, mais il avait jamais reçu un one-punch knockout comme ça. Puis Adam Daichka est le gars qui lui a sorti ça. C'est le choix du public, c'est vous qui avez voté pour le numéro 1 cette année, Adam Daichka, et voici ce qu'il avait à dire là-dessus.
What's up tout le monde? Fait comme ça, j'ai un appel de John Faber. Ça a l'air, j'ai fait au moins une bonne affaire cette année. Mais ouais, ça a l'air de voter pour Knockout of the Year. Merci beaucoup, super apprécié. En plus, j'ai eu plein de gros knockouts cette année. Je pensais, hors de battre de même, Bobby Sullivan, uppercut, qui l'avait collé une journée à l'avance. C'est incroyable. Mais pour vrai, merci tout le monde, super apprécié. Malgré ça, je vais essayer de. Je vais revenir cette année, faire les grandes choses.
Passons maintenant à la soumission de l'année 2018 en territoire canadien. Encore une fois, un top 10, 5 mentions honorables. On va y aller à l'instant. La première est la guillotine de Jesse Arnett sur Sébastien Ruiz au TKO 43. Au numéro 2, l'autre mention honorable, Cyril Gane sur Bobby Sullivan. Encore une fois, une guillotine, TKO Fight Night 1. Lee Main sur Steve Roy, une Kimura qui a été faite au Fight Night 6, je pense que c'était à Lethbridge, si je me rappelle bien. Mais bref, très belle Kimura, assez classique, le setup en North South, quand le gars est sur le côté. Puis il a craqué ça assez fort, des combats d'heavyweight, ça fait mal de voir ça. D-Log contre Hazelton, Standing Runaked Choke au L-Jack 3. Et ma dernière mention, Maxime Soucy sur Olivier Nadeau, le Runaked Choke, pas du derrière, au TKO 43. Numéro 10, Theo Vogel, Johnny Baldridge, le Arm Triangle au TKO 45, de la manière que dès le takedown, il s'est positionné pour péter le frame, tout a remonté pour aller chercher le choke directement du takedown, un super bel enchaînement de Matteo Vogel, qui est un wizard au sol, qui est un des meilleurs combattants de Jiu-Jitsu qu'on a chez TKO, puis il nous l'a montré. C'est pas la seule fois qu'on va le retrouver sur cette liste-là, petit spoiler alert, mais ça a été une très belle soumission contre Johnny Baldridge au TKO 45, je l'ai au 10e rang de la liste. Au 9e rang, c'est un très bel essai d'essayer de gagner cette catégorie-là pour Terry Lemaire contre Samuel Giguère, la guillotine au TKO 43. J'ai même pas de vidéo de ça, c'est plate, mais j'ai une belle petite enchaînement de photos, vous allez voir comment le move a eu lieu. Terry et sa gang ont bien fait leur job quand ils ont vu sur le groupe que j'avais mis cette soumission-là en nomination. ont donc contacté tous leurs amis. Lui et Mathieu Poulain ont fait ça ensemble. Et puis, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont joué le groupe et qui ont voté pour eux, tous des gens de Témines. C'est donc l'Assomption qui a été le choix du public cette année, si on veut dire, bien que je ne sais pas combien de gens qui ne sont pas de Témines qui ont voté pour cette Assomption-là. Ça en est une très belle. Les gens ont voté, je vais l'inclure sur la liste. Ça serait contre mes principes de la mettre numéro 1, par exemple. Même, je pense que Terry s'entendrait pour dire que c'est pas la plus belle soumission de l'année, même si je le sais qu'il aurait bien aimé se gagner, le petit Snoro. Mais bref, je lui donne son doux. C'est une des belles soumissions de l'année. Je la place au 9e rang de cette liste-là. Au 8e rang, un autre Arm Triangle Choke, c'est Zachary Powell sur Brad Sullivan au TKO 44. Arm Triangle Choke, assez expéditif. Powell qui a travaillé son takedown contre la cage, un takedown le gars, le choqué, genre immédiatement, je me rappelle, j'arrivais dans la place, j'ai vu que le combat commençait, je me suis installé, je me suis levé à la tête, j'ai vu Powell le takedown puis le choqué, j'ai fait bon ben en tout cas, Zachary Powell is in the place, bienvenue, et puis il nous a montré depuis que il y avait absolument aucun doute sur le fait qu'il était un des très bons combattants chez TKO, une des très bonnes recrues cette année, et puis il nous a offert la 8e plus belle soumission de l'année avec son arm triangle au TKO 44. 7e rang, Mark Gordon contre James Mancini, la clé de bras au TKO Fight Night 1. Du grand Malcolm Gordon qui essaye soumission après soumission sur son dos. Il a réussi à prendre Mancini dans une clé de bras. Mancini l'a toffé beaucoup trop longtemps. S'est fait faire probablement très très mal à son bras sur ce move-là. C'est une très belle soumission de la garde, la 7e plus belle de l'année. 6e rang, Corinne Laframboise contre Morgane Riboud, le triangle qui a été très bien set up par Corinne, qui est une excellente pratiquante de jiu-jitsu brésilien. Écoutez, ça a été tout un combat, ça a été tout un exploit de Corinne de réussir à battre Morgane, qui était hypée vraiment depuis un bon bout de temps par TKO, qu'on s'attendait à voir de grandes choses d'elle. Qu'on se disait, oh mon Dieu, en plus qu'ils sont pas dans la même division de poids, Morgane est plus une 135, Corinne est plus une 125, donc... Corinne qui sort la soumission sur son dos après avoir pris son dos, après passer proche de la choker au premier round, après avoir été très dominante. Donc, très belle soumission pour Corinne Laframboise au TKO 45 sur Morgane Riboud. 5e rang maintenant, Alexandre Ouellet contre Vianney Malaisieux, le Anaconda Choke. On n'a pas le choix de mettre ça sur cette liste-là, on s'entend. C'est mes moves, ça, au Jou, les Darce et les Anaconda. Moi, je suis plus un gars de Darce, mais j'apprécie tout ce qui est Front Headlock Choke comme ça. Puis Alexandre Ouellet nous a pas mal expliqué comment faire un très bel Anaconda Choke dans ce combat-là. C'était pas mal textbook, c'est pas mal ça qu'il faut faire pour finir un dos dans Anaconda. Et puis, ben c'est ça, checkez le vidéo, checkez le petit Robin Black Breakdown, et puis vous allez savoir comment passer de très beaux Anaconda. Gracieuseté, Alexandre Ouellet, superbe soumission, c'est au 5e rang cette année au Canada. 4e rang maintenant, David Perron contre Curtis Harriott au BFL 53. Un e-look, pas le choix là, de mettre ceci ou que ça, un super beau e-look au 4e round de ce combat-là pour aller gagner la ceinture BFL et ainsi, je pense que ça a été son dernier combat, si je me trompe pas. Je sais qu'il s'est retiré cette année, David Perron, donc... très belle soumission, très belle clé de jambe pour lui. C'est toujours des soumissions qui sont assez rares en MMA, puis quand elles sont bien effectuées comme ça, on n'a pas le choix de mettre ça assez haut sur les listes. Donc, j'ai ça ici au 4e rang des plus belles soumissions de l'année. Perron sur Harriott, le heel hook. Au 3e rang, soumission très sous-estimée cette année. Même moi, je l'avais plus bas sur la liste. Puis quand j'ai réussi à revoir du footage de chacune des soumissions, tu sais, j'étais allé les revoir avant de faire ma liste officielle. Et puis, je me suis rendu compte que c'était de loin une des plus belles de l'année. C'est Matteo Vogel sur James Clark, le armbar du triangle. Une autre soumission qui a été très bien travaillée. On a essayé l'armbar, le triangle, ensuite on a réessayé l'armbar du triangle. On a fini par réussir à soumettre James Clark, mais... très belle performance, très belle prestation de jiu-jitsu brésilien de Matteo Vogel. Il y a eu le complet contrôle de James Clark dans ce combat-là qui était son premier combat à vie. Aucun combat amateur, il a fait des compés de jiu, mais that's it, c'est la seule affaire que Vogel avait fait. Donc, première fois qu'il se retrouve dans un combat professionnel, là, sa première fois, aucune expérience amateur, puis sort une soumission de la sorte. Pas le choix de mettre ça au 3e rang. Matteo Vogel sur James Clark, le Triangle Armbar. Au 2e rang, Malcolm Gordon sur Jordan Graham, le Kimura du triangle, encore une fois. J'en ai parlé un peu quand on parlait des combats de l'année. Écoutez, les enchaînements de soumission au sol de Malcolm Gordon qui était en dessous. S'est retrouvé un moment donné sur le top avec un triangle, essayer de finir une straight arm bar. Ça n'a pas marché. Écoutez, du jiu-jitsu absolument exceptionnel de Gordon qui a réussi à trouver un moyen de finir ce combat-là avec une Kimura absolument dévastatrice qui a dû faire très très mal à Jordan Graham. Moi, j'avais mal de ma place quand j'ai vu ça. Donc, j'ose pas imaginer à quel point Graham a dû souffrir. C'est sans aucun doute une des plus belles soumissions de l'année. Selon moi, la deuxième plus belle soumission de l'année 2018 en territoire canadien. Au premier rang, maintenant, on n'a pas le choix. Écoutez, Charles Jourdain sur Alex Morgan, la guillotine au TKO 45. Une guillotine à la John Jones, je dirais standing, parce que Charles était debout, même si Alex était à genoux. Guillotine vraiment différente de celle que tu viens vraiment chercher tes mains en dessous de la gorge. Charles avait passé complètement sa main et est venu la rechercher en cable grip, exactement comme Jones avait fait. Donc, c'est quasiment... sa main était sortie, s'il venait chercher son bicep, il était en position Renekid Choke, mais en avant au lieu d'en arrière. Donc c'est une guillotine qui est excessivement creuse, qui est excessivement difficile à se défaire. Et puis de la manière qu'il a appliqué ça, après ce qu'il a fait, le spinning back fist en pleine combinaison, je l'ai dit, c'est probablement le plus beau spinning back fist que j'ai vu dans ma vie. Et puis ça aurait quasiment pu être un candidat pour le knockout de l'année, mais Alex Morgan a tellement un bon chin qu'il s'est pas fait knocker par ça, s'est relevé, s'est clinché, c'est le petit foot trip qui l'a mené dans la guillotine pas longtemps après. Mais toute cette séquence-là est absolument géniale, c'est le plus grand moment de l'année dans la cage selon moi. Et puis on n'a pas le choix d'y donner une quelconque honneur. C'est pourquoi je lui donne l'honneur de la soumission de l'année 2018 au Canada.
Salut tout le monde. Je me suis fait dire par Faber que vous m'aviez donné la soumission de l'année. J'apprécie énormément. 2018 a été une année parfaite de mon côté. Une année pleine d'apprentissage et 2019 va être incroyable. Donc, je suis content de partager ça avec vous et merci à chacun de vous.
Allons-y maintenant avec la prochaine catégorie qui est la surprise de l'année 2018 en territoire canadien. J'ai un top 10 et une mention honorable. Ma mention honorable, c'est Charles Jourdain sur Alex Morgan. Il y a plusieurs personnes qui ne pensaient jamais que Charles Jourdain allait réussir à battre Alex Morgan. Et même pour ceux qui pensaient que ça allait peut-être arriver, il y a personne qui pensait que ça allait arriver de la manière dont c'est arrivé. Donc définitivement, une des grandes surprises de l'année, c'est peut-être pas assez une surprise, par exemple, pour que je la mette dans le top 10, parce que selon moi, ce combat-là a toujours été 50-50 et je n'allais pas être surpris, peu importe qui allait gagner ce combat-là. Donc, je peux pas dire « Oh my God, j'en reviens pas que Charles Jourdain a battu Alex Morgan », comme je n'aurais pas pu dire « Oh my God, j'en reviens pas qu'Alex Morgan a battu Charles Jourdain » si ça avait été le cas. C'est pourquoi je peux pas vraiment l'inclure dans le top 10 selon moi, mais je lui donne quand même une mention honorable parce que je sais qu'il y a plusieurs gens qui ont été grandement surpris par le résultat de ce combat-là. Au numéro 10, Matt Dwyer sur Chris Anderson au BFL 53. C'est sûr que Dwyer est vraiment plus grand qu'Anderson, qui est principalement 170 livres, même s'il se bat quelques fois ici et là à 185. C'est quand même un gars qui était 6-0, qui était invaincu, qui était probablement un des prospects les plus en vogue au Canada, dans le sens du prochain gars qui allait signer avec l'UFC. Puis un combat comme ça contre un vétéran de l'UFC, c'est définitivement un genre de combat qui était fait pour essayer d'élever Chris Anderson, qui n'a pas réussi à gagner ce combat-là. C'est pourquoi je mets ça comme étant une surprise de l'année, bien qu'une surprise modérée, parce que tout le monde sait de quoi Matt Dwyer est capable, et ce, depuis quand même assez longtemps. Au numéro 10, Dominic Steele sur Teddy Ash au Unified 35. C'est un non-title match parce que Steele avait manqué le poids, mais par une circonstance bizarre, s'est retrouvé sur le top de Teddy Ash. Puis le ground and pound jusqu'à un TKO, c'est au premier round du combat. C'est absolument pas un résultat qu'on s'attendait. Je le mets pas plus haut sur la liste à cause des circonstances bizarres entourant justement ce TKO-là. Puis le fait que Steele a manqué le poids et tout, et qu'il va avoir un rematch automatique d'ailleurs. et cette fois-là, si tout le monde fait le pas, ça devrait être pour le titre. Mais bref, Steel avait, on ne s'attendait pas à ce qu'il aille battre Teddy H, surtout pas avec l'année que Teddy H avait jusqu'à ce moment-là. Semblait destiné à le battre et à signer avec l'UFC. Va falloir encore entendre encore un peu dans le cas de H, malheureusement, mais ça va sûrement venir un jour. Bref, Dominic Steel a causé toute une surprise dans le battant, c'est pourquoi j'ai ça au numéro 9. Au numéro 8, Matteo Vogel contre James Clark. Je le sais que James Clark n'avait pas nécessairement la meilleure fiche, mais Matteo Vogel arrivait dans ce combat-là en tant que gars qui ne faisait pratiquement que du jiu-jitsu brésilien, qui n'avait aucun combat amateur. Donc, c'était assez dur de dire d'après moi, Vogel va âprement dominer un très bon grappler comme James Clark de la manière dont c'est arrivé. Donc, en rétrospective, à cette heure qu'on a vu de quoi Vogel était capable cette année, c'est sûr que je ne me serais pas surpris de favoriser un Vogel contre James Clark. Mais avec l'information qu'on avait au moment où ce combat-là a eu lieu en début d'année 2018, tout portait à croire que Matteo Vogel allait se retrouver contre un meilleur lutteur et peut-être même un meilleur grappler que lui et quelqu'un de plus expérimenté en combat pro et en combat en général que lui. Donc, toute une surprise de voir Vogel performer comme ça à son premier combat pro. J'ai ça au 8e rang de l'année. 7e rang, Dejan Kajic sur Chris Anderson, que ça n'a pas été une bonne année pour lui. Après sa défaite contre Matt Dwyer, est allé se battre contre Dejan Kajic, un gars qui l'avait déjà battu. C'était un rematch et Kajic a causé la surprise en le battant par KO. Et qui a forcé Anderson à annoncer sa retraite. Je ne sais pas jusqu'à quel point il va rester à la retraite. Selon moi, c'est encore un combattant excessivement prometteur s'il pouvait revenir en action et rester chez les 170 livres là où il est à son meilleur en termes de 16 en général par rapport à ses adversaires. Donc, je pense que c'est pas la fin pour Anderson, mais de voir Dejan Kajic, un gars avec une fiche assez ordinaire, arriver là, puis battre ce prospect-là dans un rematch, c'était absolument une surprise pour tout le monde qui a assisté à cet événement-là. Donc, j'ai pas le choix d'inclure ça sur la liste, et j'ai ça au 7e rang. 6e rang maintenant, Damien Lapillus face à Julien Leblanc. Les débuts de Julien Leblanc au TKO étaient très attendus et puis tout le monde se disait « Ouais, ça fait du sens chez les 170, tu sais, c'est pas un gros 185, c'est quelqu'un qui pèse 190 livres dans la vie de tous les jours, donc devrait être en mesure de faire cette coupe de poids-là que plusieurs gens font et plusieurs gens font vraiment pire d'ailleurs. » Et en plus, il se battait contre un Damien Lapillus qui arrivait avec une séquence de 3 défaites consécutives, qui se battait chez les 170 livres contre un 185 livres. Quand lui est genre un 145, bord oblique 155, mais sa catégorie de poids optimale est vraiment 145 pour Damien Lapillus. Donc, personne ne s'attendait au résultat qui est arrivé. C'est sûr que la condition de Julien, le fait qu'il a essayé de se déshydrater jusqu'à un poids qui n'était pas vraiment santé pour lui, quelque chose qui a joué contre lui. Mais bref, personne ne s'attendait vraiment à ce que Lapillus arrive et domine comme ça. C'est pourquoi j'ai ça au 6e rang des surprises de l'année. 5e rang, Nate Maness face à Jesse Arnett au TKO 44. Écoutez, qui pensait que Jesse Arnett allait perdre cette ceinture-là avant de se rendre à l'UFC? Écoutez, c'était après 12 victoires consécutives, je pense qu'il n'y a personne qui pensait qu'Arnett allait perdre. Oui, Maness était solide, mais n'avait pas l'air de quelqu'un qui allait pouvoir rivaliser avec le grappling de Jesse Arnett. Malheureusement, Jesse Arnett a fait Jesse Arnett et a fait... Le gars qui aime un peu trop son striking et puis a échangé debout, ça n'a pas été à son avantage, il s'est fait cut, il s'est fait stopper au deuxième round, c'était Dazzer, stoppage, écoute, c'était tôt là, on va en convenir, c'était tôt, mais bref, ça reste que c'est un résultat auquel on ne s'attendait pas du tout de voir le bantamweight le plus dominant des dernières années au Canada perdre sa ceinture comme ça, face à un jeune invécu très solide qui est un bon prospect, mais je pensais pas qu'elle allait être prête à faire face à un gars de la trempe à Jesse Arnett. Il a montré que oui, mais ça reste toute une surprise. La 5e plus grosse de l'année. Au 4e rang, Cédric Bonbon-Mongeon contre Alex Murat. Deux jours de préavis. Écoutez, il est arrivé là à deux jours de préavis contre le favori local, le gars qui se battait à Québec devant ses partisans, qui avait eu le full camp. C'est sûr que c'est beaucoup de stress le jour de la pesée quand tu sais que ton adversaire ne pourra pas arriver au pays. C'était supposé être safe, Edine Ouergué. Il n'a pas pu arriver finalement. On trouvait quelqu'un. Finalement, Cédric Bonbon-Monjon est arrivé excessivement lourd pour ce combat-là. Donc, beaucoup de choses qui sont venues jouer probablement dans la tête d'Alex Murat, dans son niveau de stress pour ce combat-là. Et puis, ça a donné quelque chose absolument inattendu. Quelqu'un qui arrive sur deux jours de préavis, qu'on ne sait même pas jusqu'à quel point il s'entraînait. Tu sais, en MMA, oui, il faisait du crossfit, qu'il m'a dit, puis qu'il allait au Patnaud peut-être une ou deux fois semaine. Mais vraiment, c'est pas un gars qui était à camp, c'est pas un gars qui est dans le gym comme un Alex Bowley qu'on a vu contre l'Anglais. C'est un gars qui est toujours dans le gym, qui est toujours prêt à aller faire une guerre de 15 minutes, tu sais, presque en tout moment, parce qu'il est quasiment en camp à l'année longue. C'était peut-être pas le cas pour Cédric Monjon dans ce combat-là, puis c'est ça qui rend ce qu'il a fait encore plus exceptionnel, puis encore plus une grosse surprise en 2018. J'ai ça au quatrième rang. Troisième rang, c'est Johnny Baldridge contre Frédéric Duprat au TKO Fight Night 1. Non seulement Duprat est un prospect excessivement hypé ici, mais quand on les a vus à la pesée, le fait que Baldridge est à peu près le plus petit format de 135 livres que tu vas retrouver, et Frédéric Duprat est littéralement un gars de ma size. Le gars à côté de moi est pas vraiment plus petit et moins épais que moi. Et je suis quand même un gars de, quand je suis dans mon poids normal, de 175 livres. Donc, Frédéric Duprat est absolument gigantesque. Je sais pas comment il fait 135, mais le fait qu'il était très hypé, puis le fait qu'il y avait une différence absolument incroyable de poids, de grandeur et de poids entre les deux. Mais pas de poids parce qu'il pesait même le même poids à peser, on s'entend, là, mais deux gars qui sont pas faits sur le même frame du tout. On a un qui avait l'air d'un géant à côté de l'autre. Et puis, de la manière que Baldridge a expulsé Duprat dans ce combat-là, c'est sans aucun doute une des plus grosses surprises de l'année. Et c'est pourquoi j'ai ça au troisième rang. Deuxième rang maintenant. Ce fut le choix du public. Cyril Gane sur Haddad Hitchcock TKO 44. Et je pense que les gens ne se surprennent pas. Ben, les gens pensaient qu'Adam allait gagner. Moi aussi, pour être honnête avec vous. Mais je pensais qu'Adam allait gagner dans certaines conditions. Et puis, à seconde près que le combat commençait, que j'ai vu qu'Adam n'allait pas se battre dans les conditions que je pensais qu'il allait besoin d'établir pour gagner ce combat-là. Ben, je me suis dit assez rapidement qu'il n'allait pas gagner ce combat-là. Donc, pour moi, ce n'est pas la surprise de l'année. Parce qu'il y a toujours une partie de moi qui allait se dire, ben, il faudrait qu'Adam essaye de clincher plus, de lutter plus, puis il le sait, fait qu'il va le faire, puis l'autre partie de moi se disait, no way qu'Adam va vouloir faire ça, puis finalement, c'était cette partie de moi-là qui avait raison. Adam avait aucune intention de faire rien de tout ça dans ce combat-là. Donc, dans les circonstances, il fallait s'attendre à ce que ça arrive comme ça, mais pour la majorité des gens, ça a été une surprise assez incroyable de voir Cyril Gane brasser à Daichka dans la cage comme ça. Donc, ça n'a pas le choix d'être si haut. Deuxième plus grosse surprise de l'année, Gane sur Daichka. C'était le choix du public, mais moi, je tenais à mettre mon propre choix au numéro 1. C'est Aurine Laframboise sur Morgan Riboud. Écoutez, Morgan Riboud, justement, après l'arrivée de Cyril Gane, après l'arrivée de plusieurs autres combattants français, on se disait, ça y est, Morgan est littéralement la Cyril Gane, la Cyril Gane féminine. Et puis, on avait du footage pour appuyer ça. Il y a des combats de Morgan Riboud sur les internets. Puis, on la voit, tu sais, varger des filles là, en comme 30-quelques secondes. Ronda Rousey style, like un judo throw, puis un armbar. Ou juste établir une position, puis ground and pounder de façon monstrueuse au sol. Et puis, le fait qu'elle était plus grosse que Corinne, qui était principalement une fighter en 35 livres, contrairement à Corinne, qui est vraiment une 125 naturelle. Donc, je me disais, ça va être dur pour Corinne. Puis elle est arrivée là, puis elle l'a absolument dominée du tout au tout. Elle a prouvé à Morgan qu'elle n'avait jamais vu un niveau d'opposition aussi élevé que Corinne devant elle. Et puis, ça a été la victoire du jiu-jitsu, qui est mon sport, qui est ma passion. Donc, un des plus beaux moments de l'année pour moi. Jamais je me serais attendu à ça. Puis Dieu que j'étais content quand c'est arrivé. C'est pourquoi je décerne la palme de la surprise de l'année 2018 à Corinne Laframboise pour sa victoire sur Morgan Riboud au TKO 45. Il y a deux listes que vous allez avoir besoin de me voir la face parce que j'ai pas de photo, tu sais, pour ça. Donc, ce sont les deux catégories qui restent. On va y aller tout de suite avec la carte de l'année. Donc, les meilleurs événements qui ont eu lieu au Canada. Dans cette catégorie-là, je considère les événements UFC qui bien sûr, ont eu lieu au Canada. J'ai pas fait ça dans les autres catégories parce que, tu sais, on s'attaque le combat de l'année en sol canadien. Ça a été Max Holloway contre Brian Ortega. Mais je pense que, tu sais, je voulais plus décerner ces trophées-là, ces honneurs-là à des personnes qui se battent sur la scène canadienne, qui sont actifs sur la scène MMA canadienne. Mais pour ce qui est de la carte de l'année en sol canadien, je considère les cartes de l'UFC comme étant disponibles, comme étant des cartes que je vais inclure dans le top 10. Donc, on va y aller à l'instant. C'est 5 mentions honorables. En commençant, on a l'Unified 35, Ash versus Steele. Unified 34, Ash versus Basinski, Seth Basinski. BTC 3 Prophecy, c'était Adam Asenza contre Sean Wallace. On a les Unified 33, une autre carte de Teddy Ash contre Ortiz. Et XFCFC 18, où Matt Dwyer a affronté le vétéran de l'UFC, Dominic Steele. Ce sont mes mentions honorables. Au 10e rang, j'ai le BTC 4 Vendetta, la dernière carte de BTC qui a donné beaucoup d'action, beaucoup de finish. Le combat principal, ça a été Adam Asenza, qui est pas mal la star de la promotion, qui a affronté le vétéran de l'UFC Jason Sago, qui l'a battu, qui a ravi le titre et qui est maintenant le champion. Donc, ils ont fait une très belle carte, on a eu de la belle action. On a eu, il y a eu quelques combats qui ont fall through à la dernière minute, mais les remplacements, tout a bien pan out. Il y a eu un rematch que personne voulait vraiment avoir, qui a finalement été un excellent combat. Donc, une très belle carte pour BTC. On s'entend que c'est dur pour ces promotions-là de compétitionner avec TKO. Puis quand je dis ces promotions-là, c'est toutes ces promotions-là. BTC est une des seules au Canada qui nous offre des cartes de combat professionnels au complet. Tu sais, quand on regarde les Unified, quand on regarde Battlefield Fight League, beaucoup de Elite One aussi, XFCC, les Fight Night en Alberta, là, quand c'est Fight Night Lethbridge, Fight Night C, qui est Z Promotions. Il y a souvent des combats amateurs en début de carte et puis 4 à 5 combats professionnels. Donc c'est sûr que c'est dur pour ces cartes-là de compétitionner avec des cartes de TKO qui a des combats professionnels de très bon niveau, pas mal du plus haut niveau qu'on retrouve au Canada, en fait, from top to bottom. Donc BTC et l'autre promotion qui fait que des combats pro. Ils ont un moins bon roster que TKO, encore sont plus nouveaux, en effet, puis ils ont peut-être un peu moins de budget et tout, mais on fait un très bel événement avec le BTC 4 cette année, puis ça se doit d'être souligné. Donc, au 10e rang, j'ai le BTC 4. Au 9e rang, UFC Moncton, Ozdemir contre Smith. Ça a été une carte de Fight Night correcte, je vous dirais. C'est peut-être un peu décevant, on s'attendait à un meilleur roster, plus de combattants canadiens, mais oui, l'UFC Moncton est arrivé quelques mois avant l'UFC 231 à Toronto, où on s'attendait à avoir la majorité des gros talents, et on a obtenu la majorité des gros talents canadiens. Donc, l'UFC Moncton en a un peu souffert. Ça a été quand même une carte Fight Night très acceptable avec un main event qui a donné droit à quand même un beau comeback win d'Anthony Smith. Donc, je l'ai au 9e rang. 8e rang et la dernière carte non TKO ou UFC sur la liste, c'est BFL 56 Anderson versus Dejan Kadjic 2. Et je mets ça là principalement à cause du main event qui a offert toute une surprise. Mais sur la carte, les combats professionnels ont été excellents. C'est sûr qu'il y a eu des combats amateurs, mais pour la portion pro, ça a été une des meilleures cartes qu'ils ont mis sur pied cette année, puis les combats ont deliver. Donc on doit d'aller notre chapeau à BFL, qui est une des, probablement selon moi, la meilleure promotion dans l'Ouest. Puis là, c'est sûr que je suis peut-être pas autant un expert, il y a Unified qui font des très belles cartes aussi, mais BFL vraiment sont actifs, ont plusieurs événements par année, forment un grand nombre de combattants amateurs, et puis on se doit de leur lever leur chapeau. Le BFL 56, d'après moi, c'était de loin leur meilleure carte de l'année, et je la place au 8e rang. Au 7e rang, on a le TKO 42 Nogueira versus Laramie, qui a été une excellente carte, on va se le dire. Beaucoup de très bons combats, beaucoup d'actions sur la carte, des finishes, des surprises, des choses qu'on s'attendait moins. Et puis, il manquait peut-être un peu de gens, il manquait peut-être un peu d'intérêt. Malheureusement, dans le main event, oui, les gens qui ont été là ont applaudi très fort pour TJ Laramie, mais je pense pas que c'est la carte de TKO qui a réussi à vendre le plus de billets et à attirer le plus d'engouement à cause qu'il y avait justement pas de Québécois ou de draw local dans le main event, contrairement à un Morgan contre Laramie ou des cartes à Québec avec Barrio dans le. Morgan contre Jourdain, je voulais dire. Puis même Morgan contre Laramie d'ailleurs, mais puis les cartes à Québec qu'on s'en va en parler les direct là, anyway. Fait que je vais pas rentrer dans le sujet. 16e rang, TKO 42. 6e rang, TKO 43, Kornberger contre Barrio. Ça a été une très grande carte. C'est quasiment con qu'elle se retrouve en bas du top 5 des meilleures cartes de l'année, mais ça, je pense que c'est juste une preuve d'à quel point on a eu des excellentes cartes en sol canadien cette année, principalement de TKO et de l'UFC aussi. Tu sais, quand ils sont arrivés au Canada cette année, ils ont donné du très gros show, ils ont donné de la très grosse qualité. Et puis, c'est pour ça que je dois exclure le TKO 43 du top 5, un peu à contre-cœur, parce que c'est une carte absolument géniale. C'est les débuts à Québec, c'était vraiment un big fight feel là, dans la place. Les gens de Québec sont arrivés massivement pour cette carte-là. Ils ont été présents. On a eu le droit à tout un show. Et c'est ça. Grosse carte. Malheureusement, elle se retrouve hors du top 5, mais c'est pas parce qu'elle était pas bonne. C'est parce que les autres en haut étaient vraiment exceptionnels. Cinquième rang, ça va être le TKO Fight Night 1. Et puis ça doit faire mal aux gens qui l'ont pas vu, parce que finalement, c'est comme pas ce fight, parce qu'on n'a pas de footage de ça vraiment, à part des petits bits que les combattants ont postés sur leurs médias sociaux, etc. Mais pour la personne qui n'était pas à la TAU ce soir-là, elle a manqué cette soirée d'action-là, elle a manqué une soirée d'action absolument incroyable, avec plusieurs combats qui se retrouvent dans ma liste de Fight of the Year. D'ailleurs, deux qui se retrouvent dans ma liste des moins bons combats de l'année, mais c'est ça qui était exceptionnel avec cette carte-là, c'est que ça on avait un combat qui deliver au max, après un combat qu'on était genre ah, ok, ça c'est pas le meilleur, après un combat qui arrive de quoi être super bizarre, après un autre combat qui deliver, après une méga surprise que personne s'attendait. Donc back à back, on avait des affaires sur cette carte-là qui arrivaient, puis c'est vraiment une carte qui était bourrée d'action, une carte que tous ceux qui n'ont pas eu la chance de voir doivent regretter de ne pas avoir eu la chance de voir. Et ce qui est selon moi la 5e meilleure carte de l'année en sol canadien. Ensuite, on a l'UFC 231 Holloway contre Ortega qui se retrouve au 4e rang. Ça a été toute une carte de combat ça cette année, mais moi j'ai une certaine analyse, j'aurais dû peut-être le dire avant le début du top 10, mais pour ça, ce que je fais tout simplement, c'est que je note sur une échelle de 1 à 5, ou de 0 à 5 en fait, en utilisant les moitiés, donc 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Je donne une note à chacun des combats sur la carte, j'additionne toutes les notes de chacun des combats, et je divise par le nombre de combats, ça me donne une moyenne. Donc ces cartes-là sont classées par moyenne, vous comprenez, par moyenne d'enjoyment. Et l'UFC 231, autant quand la carte a fini immédiatement, je pensais que c'était probablement la meilleure carte de l'année. Quand j'ai regardé par après, je me suis rendu compte que peut-être en début de carte, il y a eu quelques combats qui n'ont pas deliver tant que ça. Puis tu sais, ça fait que statistiquement, elle se retrouve numéro 4 sur cette liste-là, puis qu'il y a 3 cartes devant eux. Donc, c'est ça. Au numéro 3, c'est l'autre carte de l'UFC qui est un gros sleeper. Elle s'est retrouvée très haute dans mon classement des meilleures cartes de l'année overall. Et c'est l'UFC Calgary Poirier contre Alvarez 2. Ce main event-là, je m'en rappelle, ça a été exceptionnel, mais je ne me rappelais pas à quel point on a vu des très belles choses sur cette carte-là. Et oui, ça a été une très belle carte, je vous le confirme. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, ben allez voir ça. On a eu notamment une très belle performance de Misha Sirkunov qui avait besoin d'une belle victoire dans ce combat-là. Et puis, le main event qui était absolument exceptionnel, c'est deux choses on top of my head que je me rappelle comme ça, mais la carte a été absolument géniale. Et puis, c'est la 3e meilleure carte de l'année en sol canadien. Et au numéro 2, c'est le TKO 45, Jourdain versus Morgan. Ça a été une course assez serrée. pour le meilleur événement de l'année. Mais c'est ça qui est arrivé. Le TKO 45 termine au deuxième rang. Carte absolument géniale. Une des meilleures cartes à laquelle j'ai eu la chance d'assister en personne. Comme ça arrive très souvent avec les cartes de TKO. Et c'est pourquoi ben, elle se retrouve là. Et au numéro 1, ben, si vous avez fait le calcul, vous avez peut-être deviné que c'est le TKO 44 Hunter contre Barrio. On a eu ça là-dessus. On a eu l'énorme combat entre Gann et Daichka qui en a surpris plusieurs d'un. On a eu du Ronson contre Dufort. On a eu des combats absolument exceptionnels. Jeanne Masson-Wong, Marc-André Barrio dans le main event, comme je l'ai dit. La performance de Danny Mallette contre Guillaume Poulin. Donc, meilleure carte de l'année. Pas compliqué. C'est, je pense que... Puis, tu sais, pour toutes ces catégories-là, j'ai un groupe que vous pouvez joindre. C'est un groupe qui est lié à MMA Talk. Et puis, les gens ont voté dans le groupe. Et puis, ça a été le choix du public, ça, de loin. Et puis, c'était mon choix aussi, d'ailleurs, auparavant. Donc, meilleure carte de l'année, TKO 44, Hunter contre Barrio. On passe aux meilleures équipes, meilleure équipe de l'année 2018 sur le territoire canadienne. Et puis, c'est ça, c'est basé sur leur fiche au TKO. Donc, je vais vous dire leur fiche au TKO. On a deux mentions honorables. Le tag MMA, qui sont 2-0 grâce à Nate Maness. C'est deux victoires de Nate Maness. Ensuite, Grant à Toronto, qui sont 2-0 aussi, grâce à des victoires d'Ergis Segeta. Au numéro 10, on a le complexe multifonctionnel Bel-Oeil 2.0, avec une fiche de 2-0, grâce à Johan Lennes, qui a fait un grand impact à son arrivée avec TKO. Et puis c'est un gym qu'il y a plusieurs jeunes qui poussent, puis il y a des gens qui vont de l'extérieur aussi pour s'entraîner là, avec Lee Villeneuve notamment, et le Jiu-Jitsu qui est de très haute qualité là-bas. Très belle équipe, très bon coaching staff. Ils ont de quoi entre les mains, je pense, avec Johan Lennes. Donc on peut s'attendre à une très belle année pour eux. Ensuite, au numéro 9, c'est le Gladiator Fighting Club de Alex Morgan, avec une fiche de 3-2 dans l'année, notamment deux victoires et une défaite de la part d'Alex Morgan. On a aussi Mathieu Langlais et Simon Lagarde qui se sont battus sur le dernier TKO de l'année pour ce club-là. Donc, une année qui a été très bonne pour le Gladiateur. Très belle année. On a couronné un champion TKO pour ce gym-là à Alex Morgan. Donc, on se doit de les mettre sur la liste à cause de cet accomplissement-là. Et je les ai au 9e rang, 8e rang, H2O. Fiche de 5-5. On a eu des cartes absolument géniales pour H2O, genre le TKO 42 où ils ont gagné tout le combat. On a eu des cartes un peu plus catastrophiques pour le H2O, notamment le TKO Fight Night 1, où il y a seulement que Michael Dufort qui a gagné son combat parmi les représentants du H2O. Donc, ça a été une année en deux temps, mettons, pour le H2O. Ça a été une année up and down, mais Richard est un des meilleurs coachs qu'on a. Ils ont une des meilleures équipes, un des meilleurs pools de talent, là, avec les Caponi, Dufort, avec les Fred Dupra, Brandon Lee, Joe Vallée, etc., etc. Là, c'est un gros team de combattants. Et là, je parle sur la scène canadienne, parce qu'on n'oubliera pas Olivier Aubin-Mercier non plus. Donc, l'H2O à surveiller. Et puis, j'ai aucune... Je le sais personnellement qu'ils vont avoir une très grosse année 2019 devant eux. Donc, 7e rang maintenant, on a Pat No de Gatineau, Sifu Pat, 4 victoires et 3 défaites pour leurs représentants. Donc, Nicolas Penneau, Julien Leblanc, on a Cédric Bonbon-Mongeon, Guillaume Poulain, Zachary Powell, Isaac Blais. Très beau squad, très très beau squad. Et puis les défaites, peut-être à part celle de Julien Leblanc, puis celle de Guillaume Poulain aussi, mais Guillaume Poulain a montré beaucoup de cœur, beaucoup de toughness dans cette décision-là. Pas que Julien a rien montré, mais en fait, Julien a rien montré, j'ai pas vraiment peur de dire ça. Dans cette défaite-là, il était pas lui-même, on sait de quoi Julien Leblanc était capable, puis c'était pas ça, ça a été une mauvaise idée d'aller à 170. Pas mal, tout le monde s'en était rendu compte la veille, on espérait le mieux pour le combat, ça a pas bien été, puis Julien va s'en reprendre. Écoutez, là, c'est pas ça qui est grave dans son cas, mais bref, à part peut-être ce combat-là, même dans la défaite, Pat No ont montré de très belles choses. Nicolas Penneau contre Alex O'Neill, là, notamment. Super beau club aussi. J'aime beaucoup les jeunes qui poussent de là. C'est un beau team qui... autant les gars, justement, vont s'entraîner ailleurs, vont avoir d'autres looks, autant ils reviennent toujours à la base, à Pat No. Puis c'est une belle petite équipe qui s'entraîne ensemble. Ils sont bien hot. Puis je suis content de voir qu'ils ont du succès à ce niveau-là. Donc, 7e rang pour Pat No. Au numéro 6, c'est Adrenaline. Adrenaline MMA à London avec Jesse Ronson, Malcolm Gordon. Ils sont 3-0. Ils ont le petit astérix à côté de leur nom qui fait que tous ces combats-là sont des victoires dans des combats de championnat. Donc ça fait deux vraiment des top gym là, qui amène le top talent qu'on retrouve dans TKO, le top talent qu'on retrouve au Canada en général. C'est un des meilleurs clubs, un des places les plus établies au pays. Et puis, on n'a pas le choix de les mettre sur cette liste-là. J'ai les au 6e rang cette année. 5e rang, gros star, pas le choix de le donner ça. Avec une fiche de 4 victoires, une défaite. Les Frères Jourdain ont récolté des victoires. La défaite a été récoltée par Yann Jacolin dans un premier combat professionnel contre Johan Lennes. Quelque chose que il va absolument se remettre d'eux. Et puis là, le Pro Star est allé chercher une ceinture. A démontré les Frères Jourdain, les améliorations que ces jeunes-là démontrent. Là, c'est absolument incroyable. Puis ça fait une très belle réputation à leur gym, à Eric Bertrand. Puis c'est une place où il y a un très beau team aussi. Qui pousse. Il y a des jeunes là, qui s'entraînent au Pro Star puis qui s'en viennent comme dans le futur. Là, je parle des jeunes de genre 15-16 ans qui sont au secondaire puis tout. Fait que à suivre le Pro Star qui va sans doute être une des forces pour les années à suivre au Canada en termes de MMA, qui va amener le top talent vraiment comme des gyms comme Adrenaline puis comme les autres gyms qui sont sur cette liste-là. Donc j'ai Zé au 5e rang aujourd'hui. 4e rang. Pour l'année 2018, c'est le TriStar, c'est un mainstay. 5 victoires, 2 défaites pour les représentants du TriStar. J'ai inclus Alex Morgan dans les deux. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, Morgan est autant avec les Gladiateurs, avec Pascal Chambaudy, qu'au TriStar avec Fira. C'est les deux places qui s'entraînent. Lui, c'est pas, il fait pas 5000 places. Là. Il est soit au Gladiateur ou soit au Tricer. Donc, j'ai pas le choix de le mettre comme un membre à part entière de ces deux gyms-là. Mais on a des combattants comme James Mancini aussi qui sont venus de là et puis plusieurs autres. Donc, fiche de 5-2 pour le Tricer à TKO. Pas mal le top gym au Canada, on s'entend. C'est là que le meilleur niveau de talent s'entraîne. C'est le gym à déloger. Et puis, ils font bonne figure à toutes les années, encore une fois cette année. 3e rang, New Era Combat Club de notre ami Crew Jeff Harrison qui amène une équipe assez impressionnante lui aussi avec les Matteo Vogel, Alex O'Neill, Matt Orlo, Adam Hunter et puis tu sais, j'en oublie, c'est ça le pire. C'est une très belle équipe, fiche de 5-2 en 2018, une des équipes les plus dominantes, une des équipes qui offre la meilleure opposition dans la victoire comme dans la défaite à leurs adversaires. Donc on n'a pas le choix de les mettre dans le top 3. Au numéro 2, c'est la MMA Factory. La MMA Factory de Fernand Lopez qui sont toujours invaincus au TKO avec 4 victoires et aucune défaite cette année. 2 pour Cyril Gann et 1 pour chacun des frères Lapulus. On a Alan Baudot aussi qui arrive en 2019. Donc la MMA Factory qui s'est implanté fermement au TKO dans l'année 2018 et s'est implanté comme étant vraiment un des top gym, un gym qui va amener le meilleur calibre dans la cage. Et puis c'est pourquoi on n'a pas le choix que de les mettre au 2e rang. Ça a été un tour de force pour eux cette année. Il n'y a seulement qu'un club qui a réussi, et puis avec une marge assez impressionnante d'ailleurs, parce que c'est un club qui nous amène beaucoup de talent dans TKO, du talent qui est très actif aussi, et c'est l'Ova Gym de mon ami Danny Laflamme, gym qui est d'ailleurs comme un peu un gym parent de mon gym à Saint-Jean, Nova Union et compagnie. Donc, mon bon ami Danny Laflamme, 8-0. En 2018, sous l'emblème TKO, Marc-André Barrio est invaincu, s'est battu 2 fois. Jeanne Masson-Wong est invaincu, s'est battu 3 fois. Danny Mallette est invaincu, s'est battu 2 fois. On a Samuel Moisan qui s'est seulement battu qu'une fois, mais qui a gagné aussi. Donc, c'est la suprématie, c'est le gym à battre dans le TKO. 8 victoires, aucune défaite. Danny Laflamme et le Nova Gym sont le gym à battre. On un combattant qui a signé avec l'UFC cette année, chose qui était, on le sait, là, c'est la première hein, depuis le retour de TKO. C'est le Nova Gym qui nous a donné ce combattant-là, c'est Marc-André Barrio. Et puis, c'est une année absolument exceptionnelle pour Danny. Je suis fier de leur donner le numéro 1. C'est un gym qui travaille très fort, des super beaux. J'aime toujours justement un gros team d'MMA là, qui pousse, puis qui pousse, puis ils ont de très bons amateurs qui vont s'en venir pro, qui vont continuer à augmenter la réputation de ce gym-là. Ils ont d'autres gens qui commencent, qui vont faire le saut chez les amateurs bientôt. Donc, un gym qui est toujours en production de jeunes talents, et puis Danny Laflamme au rythme où il est parti là, ne s'arrange pas pour vraiment comme donner son trône à personne dans les prochaines années, là, si ça continue comme ça risque de continuer, puis si Marc-André a le succès qu'on pense qu'il peut avoir rendu au niveau UFC. Donc, gym de l'année, Nova Gym. Sur ce, Danny m'a laissé un petit mot pour remercier toutes les gens impliqués. Donc, voilà, on parle à Danny.
Wow, gym de l'année 2018, le Nova Gym au Canada, que je suis vraiment fier avec les performances de Marc-André Barriot, Jeanne Masson-Wong, Danny Mallette, Samuel Mazan. On est 8-0 au TKO. Je suis vraiment super content. Premièrement, merci beaucoup à toute l'équipe d'entraîneurs du Nova Gym, tous les partenaires d'entraînement. Merci beaucoup à toutes les fans qui nous suivent quand il y a des shows TKO. Merci, merci, merci. J'ai ma relève avec moi. Ouais, Nova Gym! C'est ça, yeah!
Il ne reste que deux catégories seulement. On va y aller immédiatement avec la recrue de l'année. J'ai mon top 10 et j'ai deux mentions honorables étant les suivantes. Simon Lagarde et Pierre-Olivier Bouffard. Au 10e rang, Isaac Blais. Seulement qu'un combat, il est arrivé tard dans l'année, mais c'est quelqu'un qu'on attendait depuis longtemps. Il est arrivé dans la cage, il a réglé ça aussi rapidement qu'on pensait qu'il devrait régler ça contre l'adversaire qui l'affrontait sur short notice. Donc, Alex Blais, c'est quelqu'un qui est allé au secondaire avec moi puis qui a passé à l'occupation au double. Donc, shout-out à toi, Alex Blais, si jamais t'écoutes. C'est un mélange aussi avec Isaac Blais. Et mon numéro 9, Alexandre Ouellet, un autre gars qui est arrivé tard dans l'année puis qui a réglé son combat en une question de secondes. Là. Donc, Alex Ouellet, Isaac Blais au numéro 9 et au numéro 10. Ce sont des gens qui sont arrivés tard dans l'année qui auraient probablement eu la chance d'être plus haut dans le classement. S'ils étaient arrivés plus tôt, mais je peux pas les exclure juste parce qu'ils sont arrivés tard. C'est pas vraiment de leur faute à eux. Surtout dans le cas d'Isaac qui attendait ce moment-là depuis, je pense, avant même le début de l'année. Donc, shout-out à ces deux gars qui font le top 10 au numéro 10 et au numéro 9. Au numéro 8, Steve McDonald. 2 victoires, aucune défaite. C'est un heavyweight, barre oblique, light heavyweight. Je pense qu'il est plus fait pour 205 un peu, mais il a juste le fait d'avoir des light heavyweight puis d'avoir des heavyweight qui font leur début puis qui obtiennent des victoires puis qui semblent vouloir être actifs au Canada, c'est quelque chose. J'ai pas le choix de le mettre sur cette liste-là pour cette raison précise-là. Je l'ai donc au 8e rang et c'est le même scénario pour le combattant au 7e rang, Justin Doug. J'aimerais bien ça savoir comment prononcer son nom, bien que je pense que c'est comme ça. Mais bref, lui aussi, un combattant poids lourd qui a battu Craig Hudson à son deuxième combat pour être allé chercher une ceinture. Et donc, un des heavyweights établis au Canada. T'as pas besoin de grand-chose pour être un heavyweight établi au Canada. Ben, il l'est. Et ce, à son année recrue. C'est pourquoi je le mets sur cette liste-là. Puis on en a besoin des combattants comme ça. On en a besoin, justement, des poids lourds puis des light heavyweights qui vont venir... avec des adversaires dans ces divisions-là. On a établi une belle TKO dans cette division-là. On va faire un tournoi dans plusieurs soirs pour essayer de découvrir le nouveau champion. On a besoin d'aspirants. Et ça, c'est pas juste la TKO, c'est partout au Canada. C'est des divisions qui ont besoin de gars. Et puis le fait d'en avoir, c'est sûr que c'est des gars qui plus facilement vont se faire remarquer que les autres. Donc, Steve McDonald au numéro 8, Justin Doug au numéro 7. Et au numéro 6, j'ai Sarry Siddey. 3 victoires et aucune défaite, dont 2 contre le même gars, mais 3 victoires en 3 combats à son année recrue. C'est au BTC. C'est un très bon combattant, quelqu'un qui est justement avec le Burlington Training Center, qui est un enseignant là-bas, qui fait partie de cette équipe-là avec Adam Asenza et compagnie. Donc, une très belle année recrue pour Cyrus Siddey qui s'établit comme un des bons 145 livres en devenir au Canada, un des gars qui va faire parler de lui dans les années à venir. J'ai hâte de voir la suite dans son cas. Ça a été une superbe année recrue. 3 victoires, je le mets plus bas que certains qui n'ont pas eu autant de combats que lui. Et c'est par le fait que c'est pas de sa faute, malheureusement, mais il a affronté 2 fois le même gars, Avinash Chaudhry, qui est un gars qui est tough, mais qui n'était pas quelqu'un qui allait avoir de quoi vraiment pour lui, je pense, de manière ou d'une autre. Donc, peut-être un niveau de compétition un peu moins élevé que les autres, mais quand même une superbe année pour Series CD. Je le mets au sixième rang de la liste. Et maintenant, au numéro 5 et au numéro 4, c'est 270 livres. J'ai mis l'NS 5e, Mallette 4e. J'aurais pu mettre l'NS 4e, Mallette 5e. C'est pratiquement des positions conjointes. Ils ont 270 livres. Ils ont fait leur début à TKO. Ils ont deux victoires en deux combats. Mallette a démontré un niveau de striking assez exceptionnel dans sa split decision contre Sean Mead. C'est sûr que si on fait du MMA, Matt Lennes a beaucoup plus pété Sean Mead que Mallette a pété Sean Mead. Donc, est-ce que ça lui vaut la position en haut? Peut-être, là, peut-être. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre n'importe qui à n'importe quelle position entre ces deux-là. Vous pouvez mettre Lennes 4e, ça vous tente. Vous pouvez mettre Mallette 4e, ça vous tente. Moi, je pense que c'est pas mal. Du pareil au même, ces 270 livres sont arrivés. Ils ont fait un très gros impact. Ce sont des gars qui vont devenir populaires, qui ont une bonne fanbase des gens derrière d'eux qui font parler d'eux de plus en plus à chacun de leurs combats. Donc, Danny Mallette, un jump en performance entre son premier et son deuxième combat. Assez exceptionnel. Lennes a mieux fait à son deuxième qu'à son premier aussi, mais deux performances semblables dans le sens qu'il a été très dominant dans les deux combats, contrairement à Mallette qui a eu une bonne opposition à son premier. Mallette nous a peut-être déjà montré justement... Il était capable de faire des 15 minutes, il était capable de finir des gars, mais il était capable d'aller plus en endurance aussi, chose qu'on n'a pas vu de Lennes encore. Donc, j'essaie peut-être juste d'offrir des points pour les différencier un peu. Ça reste 270 livres qui ont fait un impact énorme à TKO dès leur première année. Ils n'ont pas le choix d'être dans le top 5, ces deux-là, et c'est pourquoi j'ai les ai aux positions 4 et 5. Je parle de Danny Mallette et Johan Lennes. Au numéro 3, c'est mon boy Zachary Powell, mon grand, mon chroniqueur hip-hop assigné à MMA Talk. Écoute, Zachary, dans ceux qui ont eu deux combats pro à TKO dans l'année 2018, c'est lui qui a le mieux fait. Il a vargé Brad Sullivan en quelques secondes, peut-être une minute, mais t'sais, on s'entend, quelques secondes, puis il a répété l'exploit pas longtemps après contre Mathieu Fonda en le battant au premier round de façon assez expéditive encore quand tu considères que le combat était plus long, mais que la majorité de ce combat-là, c'est Mathieu Fonda qui chique son mouthpiece abusivement en essayant de finir une guillotine qui a pas particulièrement sur Zachary Powell qui fait juste être patient pour pas faire une gaffe puis se retrouver dans une guillotine qui était pas nécessairement dedans. Donc Zachary, déjà un très beau fight IQ, un des très beaux grapplers dans la division, un 55 livre à surveiller dans une division qui a besoin de gars, qui a besoin de noms. Donc, let's do it, Zachary Powell, troisième meilleur recrue de l'année 2018 au deuxième rang. Jatson Wong, 3 victoires, aucune défaite. C'est déjà qualifié pour un combat de championnat à sa deuxième année d'expérience pro. Ça fait même pas en fait un an au complet qu'elle fait du combat pro, puis elle va déjà se battre pour un titre. C'est juste de dire comment ça va bien pour elle. 3 combats, 3 très bons combats. Mais contre Maggie et contre Corinne, ça s'est retrouvé dans mes listes de fin d'année pour le meilleur combat. Contre Marilyn Mikalev, pas totalement. Écoute, si ça avait eu à être dans le meilleur ou dans les pires, ça aurait probablement été dans les pires. Mais c'est pas de la faute à Jad, c'est peut-être juste de la faute à la façon dont elle a violemment cassé la gueule puis que c'est passé d'un combat qui était le fun à regarder parce que Jade gagnait à un combat qui était malaisant à regarder parce que Jade violentait vraiment trop une fille qui n'aurait pas dû se retrouver dans la cage avec elle. Donc, c'est ça qui arrive avec les short notice. Il n'y a personne qui est vraiment à blâmer pour ça. N'empêche que Jade, 3-0, pourquoi je ne la mets pas au numéro 1? T'sais, elle s'est qualifiée pour un combat de championnat, comme j'ai dit, et tout. Parce que il y a 2 combats qui ont été serrés. Puis oui, c'est bon pour elle d'avoir du cage time. Oh, dans le futur, ça va vraiment payer pour elle d'avoir passé beaucoup de temps dans la cage à ses 3 premiers combats pro. Mais elle a été beaucoup moins dominante dans ses victoires que la personne que je place à mon numéro 1 cette année. Et cette personne-là, est Matteo Vogel. Écoute, 3 victoires et aucune défaite. De façon dominante, comme je l'ai dit, son combat contre James Clark a été dans ma liste de soumission de l'année, dans ma liste de surprise de l'année. C'est une superbe performance de sa part au sol, absolument incroyable. Son deuxième combat, c'est un short notice chez les 145 livres contre Stéphane Lavoie, qui est un des combattants sous-estimés au Québec, qui est un des combattants vraiment meilleurs que sa fiche en a l'air. Et puis Lavoie a sérieusement ébranlé Matteo Vogel, lui a envoyé du gros dommage au premier round. On se demandait, oh my god, qu'est-ce qui va arriver avec Vogel, ça va pas bien pour lui, semble pris hors de son élément, puis au deuxième round, il est revenu, il y a l'under takedown, puis il est allé chercher sa soumission. Dans une performance sakurabesque, comme le dirait notre ami Ken Wong, que je salue d'ailleurs, donc... Très belle deuxième performance. Sa troisième performance a été littéralement... ça a été très bref contre Johnny Baldridge. Takedown, un choke. Merci, bonsoir. Terminé 3-0. Il est la recrue de l'année. Il est une des personnes à surveiller au Canada chez les 135 livres. Et il a un mot pour nous. Voici Matteo Vogel.
Je veux juste dire que c'est un grand honneur de être nommé Canadian Rookie of the Year. Je veux vous remercier et un shout-out à vous. My amazing team, my coaches, all my training partners, all my sponsors, and the TKO for letting me fight under such a world-class organization, guys. I look forward to putting on some great performances for you in 2019.
Nous y sommes maintenant à la dernière catégorie et non la moindre, le combattant de l'année 2018 au Canada. Vous connaissez la drill à ce stade-ci, 5 mentions honorables avant de commencer le top 10. Elles sont les suivantes. Sheldon Dole, Sari Sidhe, Matt Dwyer, Tyler Wilson, ainsi qu'Ergis Sigeta. Au numéro 10, Neil Anderson, le combattant lightweight qui a une fiche de 3 victoires et aucun revers en 2018. Très grosse année pour lui, s'établit comme un des meilleurs 155 livres au pays dans une division où il y a beaucoup de gens qui sont vieillissants et on a besoin justement de nouvelles forces, de nouveaux prospects qui s'établissent comme étant les meilleurs 155 livres de demain. Neil Anderson est certainement ça à ce stade-ci. Ça a été une énorme année 2018 pour lui, c'est pourquoi il est au numéro 10 de la liste. Au numéro 9, on a notre recrue de l'année, Matteo Vogel. 3 victoires, aucun revers. Ses 3 premiers combats pro et ses 3 premiers combats de MMA à vie, tout simplement. 3 superbes victoires contre de très bons adversaires. Donc, quelqu'un qui s'établit dès sa première année professionnelle comme étant probablement une force à suivre dans les années prochaines. C'est pourquoi je l'ai au numéro 9 de la liste, la recrue de l'année, Matteo Vogel. 8e rang, Teddy Ash, avec une fiche de 3 victoires et une défaite. Il aurait été sans aucun doute un des contenders pour le combattant de l'année s'il avait battu Dominic Steele à la fin de l'année. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été dans sa faveur. Ça a été une défaite par TKO. C'est un match qui a été controversé. Il va avoir un rematch automatique. Ça recule donc de quelques combats de l'UFC. Ça reste quand même une année absolument glorieuse pour lui où il a battu d'excellents combattants, dont le vétéran de l'UFC, Seth Basinski. Et lui aussi est allé chercher des ceintures chez les 185 ainsi que chez les 205 livres. Il a toujours ces deux ceintures-là avec lui. Le combat contre Steele était un non-title match, donc c'est le chem-chem de l'Ouest à 185 et 205 et c'est l'homme à battre. Teddy Ash est au 8e rang des combattants de l'année au Canada. Deuxième rang, j'ai Michael Dufort, 2 victoires et 1 revers en 2018. 2 victoires assez impressionnantes contre du très bon calibre chez les 170 livres et son revers. Ça a été dans un combat de championnat, dans le combat de l'année contre Jesse Ronson, que j'en ai parlé un peu plus tôt, un combat où il a tellement plus prouvé dans la défaite qu'il a réussi à la prouver dans la victoire dans tous ses autres combats d'avant. Donc Michael Dufort, même s'il a perdu un combat, c'était de loin son meilleur combat de l'année. Ça fait de lui un des combattants qui a eu la meilleure année chez TKO, qui a eu le plus d'exposure chez TKO et qui est promis à de plus belles choses dans le futur chez TKO. Donc, Michael Dufort au 7e rang de cette liste. 7e rang, c'est Malcolm Gordon. 2 combats de championnat, 2 victoires, 2 soumissions absolument incroyables, 2 des combats les plus excitants de l'année. Il fait de l'or à chaque fois qu'il va dans la cage. C'est un wizard du grappling, un très bon combat debout. Il est absolument excitant et j'ai hâte de le voir de retour dans la cage en 2019. Il est le 6e meilleur combattant de l'année 2018. 5e rang, je ne lui ai pas donné la recrue de l'année, donc je lui donne un petit push ici. Jade Masson-Wong, 3 combats professionnels dans sa première année d'expérience. C'est une des candidates qui était au top de la considération de la liste des recrues. J'ai décidé de le donner à Matteo Vogel, mais je pense que le fait qu'elle se soit qualifiée en ces 3 combats-là pour un combat de championnat en début 2019 doit faire qu'elle est plus haute que lui dans le classement final des combattants qui ont eu la meilleure année. Et elle doit se mettre, si elle bosse, si elle réussit à gagner ce titre-là en début d'année 2019, elle va se mettre sur la courte liste des candidats comme combattant de l'année en 2019 aussi. Donc, Jeanne Masson-Wong, non seulement a eu une excellente année, mais s'est positionnée pour avoir une année 2019 encore meilleure que son année 2018. Donc, c'est pourquoi je la mets au 5e rang. quatrième rang maintenant. Il faut pas laisser son dernier combat de l'année laisser venir gâcher tout ce qu'il a accompli cette année. C'est Alex Morgan. Il est devenu champion des 145 livres, a vaincu son nemesis absolu en TJ Laramie pour la deuxième fois. A gagné aussi contre Peter Pettis dans un combat qui a été âprement disputé quand même, mais pas tant que ça, moins que la split decision le laissait entendre. Moi, je me rappelle que j'étais pas vraiment d'accord avec le fait qu'il y ait un juge qui ait donné le combat à Pettis. Je pense que c'était assez clair pour Morgan. Pettis avait été un compétiteur au Dana White Contender Series, donc quelqu'un qui était peut-être à un combat de l'UFC. Morgan est allé le battre, ça il a mérité un title shot, a gagné ce titre-là. Malheureusement, ça n'a pas été comme il voulait à son dernier combat de l'année contre Charles Jourdain, mais quand même, une année absolument exceptionnelle pour Alex Morgan et une année dont il devra se rappeler pour le reste de sa carrière. Donc c'est pourquoi je l'ai au quatrième rang des combattants de l'année. Top 3 maintenant, troisième rang, Cyril Gann. Deux victoires et aucun revers est arrivé à fracas complet dans TKO. Ça a été absolument quelque chose d'incroyable que de le voir arriver, de détruire Bobby Sullivan, de détruire Adnan Dajka. Le gars est à un autre niveau. C'est, écoute, je ne l'ai même pas pris en considération comme la recrue de l'année parce que le gars n'a pas l'air d'une recrue, là, l'air d'un complet vétéran. Puis oui, je sais que je me concentrais plus sur les combattants canadiens, bien que lui œuvre en sol canadien, même s'il n'est pas de nationalité canadienne. Donc, je devais le considérer pour les combattants de l'année. Le gars est une des grandes sensations de cette année 2018 au Canada. Et je pense qu'il y a des bonnes chances que ça se concrétise encore plus en 2019 pour lui, qu'il devienne encore plus populaire, puis je vois juste pas comment fin 2019, début 2020, il ne sera pas dans l'UFC. Ce gars-là est déjà prêt, selon moi. Donc, Cyril Gann au numéro 3. Numéro 2, c'est celui qui a failli gagner absolument toutes les catégories cette année. Il a gagné la soumission de l'année, a presque gagné le knockout, a presque gagné le combat de l'année, et gagne presque. Le combattant de l'année, c'est Charles Jourdain. Pour être franc avec vous, c'était mon choix personnel pour le combattant de l'année. 3 victoires, aucune défaite. Le plus beau comeback que vous pouvez pas imaginer en termes de carrière après sa défaite contre TJ Laramie. Il y a plusieurs gens qui se disaient « Oh shit, dans le fond, Charles Jourdain, quand ça va au sol, il n'y a pas grand-chose. » Et puis, il nous a montré du très beau sol cette année. Il a knocké Matarlo, mais après ça, du très beau sol contre Généreux. Superbe soumission contre Alex Morgan. Tout ça est toujours setupé par ses mains, on s'entend. C'est pas mal dans ce domaine-là que ça se passe pour Charles. Mais ça en vient un combattant de plus en plus intelligent, qui est capable d'être flashy, mais qui l'est au bon moment pour faire les bonnes choses, contrairement à quand il était plus jeune, quand que ça faisait des flying knees, juste un peu pour faire des flying knees, puis ça shootait pour des takedowns, peut-être pas au meilleur moment, juste pour dire qu'on est capable de shooter pour des takedowns. Ça a toujours été ma critique quand les frères Jourdain étaient plus jeunes. À Star, c'est tellement plus le cas, c'est rendu tellement des combattants qui sont habiles partout et super intelligents. Charles Run année drive, comme je l'ai dit, c'était mon choix pour le combattant de l'année, mais les gens ont voté autrement et puis j'ai pas le choix, c'est-à-dire de donner le choix du public cette année comme combattant de l'année. Et pour la deuxième année consécutive, c'est Marc-André Barrio qui va gagner cette palme-là. Et puis j'aurais mis Charles Jourdain parce qu'il y a un combat de plus et lui aussi est allé chercher un titre dans un combat d'une envergure absolument incroyable. Mais je comprends que Marc-André Barrio, qui a été moins actif cette année avec seulement 2 combats, soit celui qui gagne la palme parce qu'il était impeccable dans ses 2 combats et il est devenu le premier combattant de la nouvelle ère TKO à signer un contrat avec l'UFC. Donc je pense que c'est son année, c'est ça, c'est le grand couronnement pour Marc-André Barrio. Il a finalement la chance d'aller accomplir son rêve, se battre dans la plus grande ligue de combat du monde. Et puis je pense qu'à cause de ça, les gens ont voulu l'élire comme combattant de l'année. Et puis je suis d'accord qu'il le mérite amplement pour une deuxième année consécutive, même si Charles avait un claim, Marc-André a son claim aussi. Et puis pour l'aspect symbolique de la chose, pour le fait que c'est lui qui va représenter la nouvelle vague TKO comme étant le premier arrivant de cette nouvelle vague-là dans l'UFC, ben c'est pourquoi je donne à Marc-André Barrio le titre du combattant de l'année tel que voté par vous, les gens qui sont sur le groupe et les partisans. Donc, voici un petit mot de Marc-André en terminant cette dernière catégorie-là.
Wow! Combattant de l'année 2018! Vous avez voté un grand nombre pour moi. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis très, très content. Encore une fois, l'année passée, on avait gagné les grands honneurs. Cette année, c'est encore ça. Je suis vraiment content. Merci à mon chum Faberglass. Tu fais une très bonne job. Merci de tout couvrir ce que tu fais. Ça nous donne vraiment une très belle visibilité. Écoutez, l'année 2019 qui s'en vient va être vraiment, vraiment, vraiment encore meilleure. J'ai vraiment hâte de faire mes pas vers l'octogone de l'UFC. On a travaillé fort, on y a cru. Merci à tout le monde du support, la famille, les amis, les partenaires d'entraînement, le gym, les commanditaires. Sans vous autres, ce ne serait pas la même chose. Merci beaucoup à ma blonde, je l'aime. Ensemble, on est fort, on a refait le plein d'énergie. On est prêt à attaquer l'année. Donc, soyez à l'affût, il y a des grosses choses qui s'en viennent pour nous autres. Merci beaucoup.
Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour la remise des récompenses d'année, de fin d'année 2018 de MMA Talk. Donc, félicitations à Jesse Ronson et à Michael Dufort pour leur combat absolument exceptionnel. Félicitations à Manny Alfaro et Tariq Ismaël pour nous avoir donné ce qui a été le moins bon combat de l'année 2018. Félicitations à mon bon ami Adam Dajka pour son KO de l'année face à Icho Larenas. Félicitations au champ Charles Jourdain pour la soumission de l'année, la première soumission de l'histoire via Spinning Back Fist, et puis la performance générale, le moment d'MMA le plus ridicule de l'année dans la cage, selon moi. Donc bravo Charles, qui a d'ailleurs été qui d'ailleurs presque gagné toutes les catégories, là, si on regarde ça comme faux cette année, donc quelle année pour lui. Bravo à Corinne Laframboise pour sa surprise de l'année, c'est la victoire du Jiu-Jitsu contre Morgan Ribou, il n'y a personne que moi qui était plus content que ça. Bravo à Marc-André Barriot d'être le combattant de l'année pour une deuxième année consécutive. L'année passée, 4 victoires, aucune défaite dans TKO, on n'avait pas le choix d'y donner. Cette année, seulement 2 combats, mais devient le premier combat de l'ère moderne de TKO à signer dans l'UFC, donc on n'a pas le choix d'y donner encore. Donc Marc-André Barriot, peut-être qu'il va être encore le combattant de l'année au Canada, même en se battant dans l'UFC l'an prochain, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire, ceci-là. Donc félicitations à Marc-André Barrio. Félicitations aussi à Matteo Vogel d'être la recrue de l'année. Quelle année recrue absolument exceptionnelle pour lui. Félicitations au Nova Gym pour son année record. 8 victoires, aucune défaite dans TKO, invaincu. Le gym à battre. Félicitations à Daniel, à toute l'équipe. Et finalement, félicitations à Stéphane Patry et à TKO d'avoir mis sur pied toutes ces cartes exceptionnelles-là, dont le TKO 44, qui est de loin une des cartes marquantes de l'année 2018 dans le monde du MMA en général, selon moi. Donc, c'est ça qui est ça. C'était les récompenses de fin d'année. Mes médias sociaux sont affichés, c'est à quelque part, vous me suivez. Si ça vous tente, sinon, vous savez quoi faire. Likez la publication, partagez, taguez vos amis, taguez les combattants qui ont gagné. Hey, gros, bravo, hein. Faites ça dans les commentaires en bas. Dites-moi si j'étais un cave d'avoir mis un tel et non pas un tel. Bien qu'il y a beaucoup que c'était des choix du public, je sais que j'ai un droit de veto, t'sais, mais il y en a beaucoup qui étaient des choix du public, donc si vous vouliez pas que ce gars-là gagne, vous avez juste à aller voter contre lui. Bref, on s'explique. Exprime dans les commentaires, on jase de ça ensemble. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook et abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube. C'est là que ça se passe. On se voit une prochaine fois et bonne année 2019 à tous.